Hippolyte Dumas, le condamné à mort en fuite. Perception de Kéran, vendredi 13 octobre 1797, 18h45. Monsieur Dumas ?
Oui, Hyacinthe ?
J'entends du bruit à la porte, alors que je l'ai verrouillée tout à l'heure. Allez donc vérifier, si vous avez un doute. L'employé de la perception s'exécuta. En s'approchant de la porte, elle vit que la poignée à double serrure inversée montrait des signes de résistance. Hyacinthe eut un mauvais pressentiment. Au même moment, le gond supérieur de la porte céda sous ce qui semblait être un coup de hache. Elle eut juste le temps de se reculer avant que l'autre gond n'explosât. La force de l'outil tranchant fendit la porte en deux. Un visage d'homme, partiellement couvert d'un masque de tissu mal fait, apparut dans l'ouverture béante, révélant deux petits yeux noirs et déterminés. L'homme se mit à hurler.
« Si tu bouges, je te coupe en deux, comme la porte !»
Submergé d'effroi, Hyacinthe s'effondra sur les genoux et perdit connaissance sur le champ. Hippolyte Dumas, impassible, restait assis à son bureau de directeur de la perception, observant la scène avec un détachement curieux. Le jeune homme n'avait que 27 ans, mais présentait déjà la maturité et le cran d'un homme bien plus âgé, ayant acquis une forte expérience. Il fut le maire de Kéran et depuis quelques mois, il officiait en tant que percepteur des impôts. Avec son mètre 90 et ses 100 kilos, son diplôme d'avocat obtenu à Avignon à 22 ans, Hippolyte en imposait physiquement et son esprit était affûté comme une lame de rasoir. « C'est pour un paiement d'impôts ? » lança-t-il ironiquement. L'intrus traversa d'un bond ce qui restait de la porte, enjamba Hyacinthe, inerte. Il se planta devant le bureau, face à Hippolyte. « Fais encore le malin une fois, et tu n'en auras plus jamais l'occasion !» gronda-t-il, le doigt en signe d'avertissement sur le tranchant de la hache. Hippolyte le regarda, presque amusé.
« Je ne fais pas le malin !»
Je pose la question parce que j'ai déposé hier la recette de la semaine à Orange, si bien que ce soir, les caisses sont complètement vides. Quatre autres personnes rejoignirent l'homme, toutes aussi incrédules que lui.
Quoi ?
Quoi ? Bon, allez, ça va. Va chercher l'argent, maintenant. Je vous donne la clé du coffre, c'est plus simple. Vous avez la possibilité de vérifier par vous-même. Vous déciderez ensuite. Me croire. Ou m'accuser de menteur. Hippolyte lance la clé, rattrapé au vol par un brigand. Avide d'un potentiel butin, ils se dirigèrent tous les quatre vers le coffre. Après quelques manœuvres nerveuses, ils parvinrent à l'ouvrir. Ils se rendirent à l'évidence.
« Chef ! Chef ! C'est vrai ! Il n'y a rien dedans !»
Le chef, regard agressif, revint s'asseoir devant le bureau d'Hippolyte. « Soit tu mens, et il y a un autre coffre. Dans ce cas, tu meurs tout de suite. Soit tu dis la vérité, et tu as une chance de rester en vie. » Après une courte réflexion, Hippolyte, imperturbable, usa d'un chantage argumentatif. « Armand Drex, il y a une troisième solution. Je ne dis rien de ton identité au maréchal des logis chefs, qui est d'ailleurs déjà au courant de notre incident à la perception. » Et tout le monde s'en sort vivant. Enfin, façon de parler, c'est une question de temps, pour chacun d'entre nous. L'homme, même à moitié masqué, eut du mal à dissimuler son malaise. Après quelques secondes d'hésitation troublée, il reprit. « Tu me connais ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai un masque. Enfin, vous n'avez pas pu me reconnaître, monsieur. » Hippolyte souriait. D'un air malicieux. Eh bien, si, je t'ai reconnu dès que tu as avancé la tête par le trou de la porte cassée. Ton misérable masque est resté de l'autre côté. Au fait, ta mère, la pauvre boulangère, c'est la cousine de Hyacinthe, la dame que tu as fait tourner de l'œil, mais pas pour de bonnes raisons. Qu'est-ce que tu dois la rendre malheureuse, ta mère ?
Voyons, Drex, réveille-toi. Il serait temps que tu arrêtes tout ça. Ça devient ridicule, non ?
Ah, bon,
Mais si vous m'avez reconnu, alors, qu'est-ce qu'on fait? Si je tue, vous, tu, oh, bon, vous ne pourrez plus parler. C'est ce que je me dis, hein, les gars?
Le pauvre Drex ne savait plus où il en était. Un des complices osa une petite intervention sans trop y croire. « Et il faudrait aussi tuer la cousine de ta mère ?»«
Oui, c'est comme ça, et personne ne pourra parler, » reprit Drex d'un ton faussement méprisant, déboussolé, infantile.
Sur ces entrefaites, Hippolyte vit Hyacinthe se relever en silence et, ayant compris l'injonction discrète de partir, elle disparut discrètement par la porte fracassée. Le coup final allait être porté à l'équipe.
« Oui, jeune Drex. D'ailleurs, tu as commencé par me tutoyer. Maintenant, tu me vouvoies.
Oui, tu me tues déjà à demi-mot, avec ton style.
Bon, laisse, je plaisante.
Pour te répondre, alors, si tu veux tuer Hyacinthe, il va falloir aussi éliminer ta mère.
Quoi? Mais vous êtes dingue!
Je pense que Hyacinthe a eu le temps de tout expliquer à ta maman, à la maréchaussée par la même occasion, qui doit être, à l'heure où je te parle, en route pour attraper les grands brigands de Kéran que j'ai en face de moi.
Bon, monsieur Dumas, la troisième solution m'intéresse bien. En fait, c'est d'accord.
C'est raisonnable. Toutefois, cette option t'oblige à réparer la porte avec tes amis avant de repartir. Et tu la refermeras en déposant les clés dans cette auge à eau. Nous sommes bien d'accord ?
C'était maintenant un petit groupe d'adolescents gênés qui se tenaient devant Hippolyte, du plus petit au plus grand, presque au garde-à-vous.
« Oui, monsieur, mais les clés, je les jette dans la… l'eau, log… enfin quoi,
la fontaine là, parce que c'est plein d'eau ?»«
Non, tu la poses délicatement au fond. Ainsi, tu auras les mains propres ce soir. »
Drex ne comprit pas la métaphore. Chapeau sur la tête, Hippolyte se leva pour sortir, en priant le petit groupe de quitter rapidement son bureau avant qu'il ne refermât la porte à leur nez. Les cinq hommes travaillèrent une grande partie de la nuit pour réparer la porte d'entrée de la perception. On devait la retrouver comme neuve, le lendemain matin, dès l'ouverture de la perception. Drex déposa la clé dans l'auge à eau, comme Hippolyte le lui avait indiqué. Il se frotta vigoureusement les mains pour se sécher. Il faisait froid cette nuit-là. Il était 3 heures du matin. Au moment de partir, étonnamment soucieux du travail réalisé par son équipe, mais toujours aussi troublé par sa soirée, il lui déclara « Les gars, ce soir, c'était mon dernier coup. Je rentre pour retrouver ma femme et mes enfants. Je ne veux plus voler. À partir de maintenant, je veux tout mériter. Ma mère doit souffrir de tout cela. Halte pour moi. Je rentre dans le rang. » Perplexe, les collègues de forfait le regardèrent s'éloigner dans la nuit. Le gang local venait de prendre du plomb dans l'aile. Hippolyte était rentré chez lui quelques heures plus tôt. L'événement du braquage manqué à la perception avait déjà fait le tour du village, même à 7 heures avancée de la soirée. Hyacinthe avait évidemment tout raconté à la maréchaussée ainsi qu'à la mère Drex. Le maire, Gaspard Martineau, en avait évidemment été informé. Le récit des faits avait circulé en un rien de temps. Hippolyte rentrait chez lui à pied, perdu dans ses réflexions. Il avait un mauvais pressentiment. Le climat politique était instable. Les citoyens n'avaient de cesse d'exiger que de nouvelles têtes tombent. L'ère napoléonienne favorisait la rotation rapide des élus. Les campagnes électorales dans la Drôme étaient souvent fondées sur la discrimination et le mensonge entre candidats. Au moment de l'élection municipale, un an plus tôt, Hippolyte avait très vite retiré sa candidature, désabusé par la tournure calomnieuse qu'avait prise la campagne municipale. Monsieur Martineau, chantre de l'indécence, avait donc été élu maire, en l'absence de concurrents politiques. Il était passé maître dans l'art de la manipulation. Il échafaudait désormais tous les plans possibles pour avoir la garantie d'un petit règne sans partage sur le village, et ce pour plusieurs années. Ce soir-là, il voyait une occasion parfaite d'évincer le candidat potentiel le plus redoutable du village, son prédécesseur.
Hippolyte venait d'arriver chez lui. Il ôta tranquillement son habit dans le vestibule.
« Hippolyte, c'est toi ?» s'inquiéta son épouse Clara.
« Tu ne vas jamais me croire. Tu sais, à la perception ce soir, le jeune Drex. »
« Oui, je sais, Hippolyte. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Nous n'avions pas besoin d'argent. Tu sais très bien que l'argent brûle ceux qui le convoitent à l'excès. Mais qu'est-ce qui t'a pris, vraiment, d'organiser toi-même une tentative de vol ? Tout le village en parle. La maréchaussée est à ta recherche. Le maire est avec eux. »
La voix tremblante de Clara coupa le sourire affectueux d'Hippolyte. Son mauvais pressentiment se confirma.
« Quoi ? Mais de quoi parles-tu, Clara ?
Il faut que tu partes, mon chéri. Sauve-toi, vite !
Me sauver ? Mais de quoi ? Où ?
Je ne sais pas, mais Martineau affirme, à qui veut l'entendre, que tu es un bandit et qu'il en fait un point d'honneur à te faire punir. Il te cherche avec les gendarmes pour t'arrêter. »
Bon sang !
Un long silence pesa dans la pièce. Hippolyte restait debout. Son épouse essuyait quelques larmes, en panique à peine dissimulée.
« Je vois. Martineau a eu l'information avant tout le monde. Son esprit vicieux est en train de monter toute une fausse histoire contre moi. »
On frappa violemment à la porte. La voix aiguë et désagréable de Martineau claqua dans le couloir.
« Citoyen Dumas, rendez-vous. »
Hippolyte, c'est terminé. Tout le monde savait que tu étais un brigand. Tu te rends maintenant, voleur. »
Le piège se refermait. En ces temps révolutionnaires instables, un simple témoignage accusateur pouvait envoyer la victime à la guillotine, presque sur le champ.
Hippolyte ouvrit la porte. Il observe le groupe de gendarmes mené par l'affreux Martineau, dont le pantalon usé était aussi sombre que son regard. Hippolyte comprit qu'il n'eût servi à rien de résister. Il embrassa sa femme et ses deux fils, qui venaient de descendre de l'étage. Dignes mais tristes, les deux petits bonhommes serrèrent leur père dans leurs bras. De grosses larmes coulaient sur leurs joues. Amédée et Calixte avaient respectivement 10 et 8 ans. Ils avaient compris l'éventualité de ne jamais revoir leur papa. Les gendarmes emmenèrent le percepteur directement aux cellules de l'Hôtel du Peuple à Avignon, à 2 heures de cheval de Kéran, fer au poignet. Le voyage en calèche fut éreintant. Hippolyte dormit le soir même, dans un cachot sombre et humide à Avignon. Il savait que la situation était hautement critique et que l'objectif de Martineau visait une longue persécution, voire pire. Tous les personnages politiques influents se connaissaient, de Buis-les-Baronnies à Grignan, de Montélimar à Avignon. Martineau était en lien avec les ténors de l'Hôtel du Peuple, sans oublier les exécuteurs en chef de la dernière heure de la petite révolution déliquescente locale. Nous étions bien loin des idéaux de la révolution de 1792. En octobre 1797, la France faisait face à des tensions internes qui étaient le fait de factions politiques cherchant à rivaliser entre elles pour obtenir le pouvoir. Les tensions entre les Jacobins et les modérés, par exemple. Les soulèvements royalistes dans certains départements comme le Vaucluse. Certains personnages allaient jusqu'à instrumentaliser ce chaos à des fins personnelles et immorales. Un mois et demi plus tôt, avait eu lieu le coup d'État du 18 Fructidor, qui renforçait le pouvoir du gouvernement modéré et éliminait certains députés royalistes. Hippolyte ne ferma pas l'œil de la nuit. Il revisitait son histoire familiale. Le visage de son père, député de Kéran, réapparut avec son cortège d'épisodes dramatiques. Prison, condamnation, décision inique, injustice, traumatisme filial, indicible souffrance, exécution. La nuit fut douloureuse, marquée par les cauchemars animés par les rongeurs nocturnes. Mais qui donc avait condamné son père dans ces mêmes murs ? Qui donc avait sacrifié un homme pur et bienveillant, dont la seule faute était le refus d'allégeance immédiate à une certaine République ? Sans doute un homme de la veine de Martineau, courtisant le système jacobiniste autant qu'il le pouvait.
En condamnant à mort le père d'Hippolyte pour trahison d'État, un juge malhonnête avait sans doute espéré une promotion plus rapide émanant de Paris. Le pauvre Dumas père avait été décapité le lendemain de son arrestation, après un semblant de procès expéditif. Le juge criminel ne reçut, bien sûr, aucune promotion pour ce crime. 5 ans plus tard, il était toujours en poste dans le même bureau, animé des mêmes aspirations nocives. Le juge Farrac, exécuteur de François Dumas, allait rencontrer Hippolyte Dumas, Hôtel du Peuple à Avignon, samedi 14 octobre 1797, 7h15. Après une nuit blanche passée dans sa geôle, Hippolyte, physiquement marqué par l'angoisse et les cauchemars, fut amené devant un bureau de l'étage de l'hôtel. 2 gendarmes le gardaient sous étroite surveillance dans le couloir, fers au poignet. 1 heure plus tard, il fut introduit dans le bureau où un petit homme blond, perdu derrière des montagnes de dossiers, s'adressa sèchement aux gendarmes. C'était le juge Farrac. « Conservez les fers. Je ne sais pas comment M. Dumas fils pourrait réagir », déclara-t-il sans regarder Hippolyte. « Qu'il s'assoie sur la chaise devant moi. Monsieur, je vois dans votre dossier que vous avez utilisé votre fonction pour enrichissement personnel en association avec des malfaiteurs. Heureusement pour nous, le maire Martineau veille à la bonne protection de l'État à Kérane. » Hippolyte était blanc comme un linge. « Nous n'avons que très peu de circonstances atténuantes à votre sujet. Vous aurez une procédure spéciale et je serai votre juge unique, compte tenu de la situation. En tant que juge unique et à titre personnel, je considère que votre comportement touche clairement et indiscutablement à la trahison d'État. » Après un long et lugubre silence, persuadé de l'insincérité du juge Farrac, Hippolyte réagit d'une voix faible. « Monsieur le juge, vos accusations sont fondées uniquement sur des affirmations erronées du maire Martineau. Vous vous en doutez, il ne peut y avoir collusion de ma part avec le brigand Chay. Si cela avait été le cas, je ne serais pas assis devant vous. L'opération n'aurait pu que réussir. » Le juge ne regardait plus Hippolyte, qui reprit, d'une voix émue. « Avant d'être percepteur, j'étais le maire. Je n'ai jamais failli à mes obligations, ni mes devoirs. Vous le savez sans doute. Cette situation est aberrante. Arrêtons tout ceci. Libérez-moi. » Vous libérez ? Et quoi encore ? On m'a dit que vous aviez le sens de l'humour chevillé au corps. En effet, je le constate. » Plus catégorique, le magistrat haussa le ton. La question du non fondé ne se pose pas, cher monsieur. La force du motif de l'accusation est à ma seule appréciation. Et je pense qu'un élément ne va pas jouer en votre faveur, celui de l'héritage familial. Il est là le fondement du dossier, à mon sens. Comment ? Hurla Hippolyte. Ma décision vous concernant étant prise, je peux vous le dire. Je suis le juge qui a instruit et condamné votre père. Mon père a été jugé coupable lors d'un procès inique, sans avocat. C'était vous le juge ? Hippolyte laissa éclater sa colère. D'un violent coup de pied, il envoya Valdinguer une chaise de l'autre côté la pièce. Il saisit une lampe sur le bureau et la lança en direction du juge. Elle n'atteignit pas son but. Un des 2 gendarmes, surpris, saisit le manche de son épée pendant que l'autre frappait Hippolyte au visage. Le calme du juge Farrac en ajoutait à sa perfidie. Il semblait se délecter de la situation. « Précisément, monsieur Dumas, c'est moi qui ai réglé le compte de votre père. Et les chiens ne font pas des chats. Même cause, même effet. Vous lui transmettrez mes salutations, là où vous allez. Messieurs, emmenez le prisonnier dans sa cellule. Je rendrai le verdict dans l'après-midi. » Les gendarmes furent à 2 doigts d'assommer Hippolyte, hurlant et gesticulant de toutes ses forces. Le panneau, à l'entrée du couloir de la cellule dans laquelle ils le jetèrent, ne laissait planer aucun doute. Condamné à mort. Son espérance de vie s'était réduite à quelques heures. La suite était déjà écrite. À moins qu'une évasion ne réussît, Hippolyte le savait. À 1h du matin,
les geôles étaient silencieuses. Les gardiens, ce week-end-là, n'étaient pas vraiment vigilants, et la fête de la veille, en l'honneur du coup d'État du 18 Fructidor, avait inauguré un samedi alcoolisé. La nuit les avait plongés dans le sommeil. Hippolyte était placé en cellule provisoire depuis le début de la matinée. La serrure ne fit étrangement pas entendre son mécanisme de fermeture, pourtant très sonore. Seul dans sa geôle, il eut le temps de réfléchir toute la journée au modus operandi d'une évasion nocturne. Il espérait qu'aucun gardien ne se rendît compte de la serrure mal verrouillée et de la porte restée entrouverte. En pleine nuit, Hippolyte prit donc la poudre d'escampette. Pour sa survie et pour la mémoire de son père, son évasion de l'hôtel du peuple d'Avignon ne rencontra aucun obstacle. Elle fut discrète et sûre, grâce à un brave vigneron rencontré sur le chemin d'Avignon avec sa charrette chargée de barriques vides. Le bourreau, dont le nom était déjà enregistré sur le jugement, ne tint donc jamais la tête Hippolyte entre les mains. Dimanche matin, à 11h, allongé entre les fûts vides, le fugitif entendit son ange bienfaiteur lui dire « Bon, mon ami, on est arrivé à Grignan. Il est temps de descendre. » « Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. » « Je ne sais pas. Vous feriez ça un jour pour moi, peut-être. Bonne chance. Allez voir à l'auberge du Grand Monarque. Il paraît qu'il y a quelques chambres à louer à l'étage. » Hippolyte descendit de la charrette, au pied du château de Grignan. Il en avait entendu parler, mais l'état de décrépitude avancée de cette demeure féodale, née au XIe siècle, le déconcerta. Des amoncellements de pierres, des fenêtres à moitié arrachées et des colonnes de fumée s'échappaient de tous côtés. L'auberge du Grand Monarque se trouvait à quelques centaines de mètres. Hippolyte était inquiet. Il pensait à son épouse Clara, à Calixte et à Amédée. Le mistral ne cessait de sécher ses larmes. Quand allait-il les retrouver? Qu'allaient-ils tous devenir? Grignan, auberge du Grand Monarque, dimanche 15 novembre, 10h05. Perdu dans ses pensées tristes, hésitant, il se dirigeait vers l'auberge. Ses vêtements poussiéreux et froissés trahissaient la nuit agitée et froide qu'il venait de passer. La paille n'avait même pas donné un peu de confort dans cette course haletante en charrette. Le village semblait désert, l'atmosphère était presque oppressante. En entrant dans l'auberge, il fut accueilli par un homme trapu au visage fermé, qui le scruta avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux ? » demanda-t-il d'un ton bourru. « Une chambre, juste pour quelques jours. J'ai fui des menaces injustes, » répondit Hippolyte, cherchant à gagner la sympathie du patron. « Oh, des menaces injustes, hein ? T'es pas le premier étranger à arriver avec ce genre d'histoire. T'as de quoi payer ? Ça, ça suffit ?» Le maigre montant versé en pièces fit ricaner le patron. « Juste assez pour une nuit, et encore, je prends un risque en t'acceptant. Mais pas de vague, compris ?» Hippolyte acquiesça. On le conduisit à l'étage, dans une petite chambre, où il espérait passer la journée du dimanche et la nuit. À peine en eut-il fermé la porte, que des cris et des bruits sourds retentirent dans le couloir. L'aubergiste frappait furieusement à sa porte. « C'est toi, Dumas ?»« Oui, » répondit Hippolyte du tac au tac. « Sors immédiatement. Des soldats viennent de passer et ils me disent qu'ils recherchent activement un dénommé Dumas, fugitif d'Avignon. Si t'es découvert ici, c'est la fin pour moi aussi. » Hippolyte se précipita vers la fenêtre en constatant qu'elle donnait sur une ruelle étroite surveillé par des patrouilles militaires. Devant son hésitation, le gérant ouvrit la porte avec brutalité et le tira par la manche. Ils descendirent précipitamment aux cuisines. L'aubergiste poussa la trappe d'une cave secrète. « Reste ici jusqu'à ce que les choses se calment. Mais n'imagine pas rester longtemps. Tu vas m'attirer des ennuis ici, » grogna l'homme affolé, avant de refaire surface au moment où les soldats entraient avec fracas dans la grande salle de l'étage. « Où est-il ? » hurla un soldat, ouvrant brutalement la porte de l'auberge. « Je ne l'ai pas vu, votre fuyard, moi !»
Hippolyte, dans cette cave humide, remplie de tonneaux de vin et de toiles d'araignée, essayait de retenir sa respiration. Il entendait les pas énergiques des soldats au-dessus de lui. Un autre bruit surgit dans la cave, en même temps qu'une silhouette, faiblement éclairée par une bougie. « Qui est là ?» chuchota Hippolyte. « C'est moi, la cuisinière. Par ici, vite, cours, jeune homme, vers la trappe extérieure. » La brave femme ouvrit une autre trappe cachée au fond de la cave et débouchant à l'extérieur, derrière l'auberge. Hippolyte lui exprima un merci, presque inaudible, avant de se jeter au grand air. Il put désormais entendre les clameurs plus distinctes provenant de l'auberge. Les soldats étaient encore à l'intérieur. La profonde obscurité, clémente, laissait malgré tout apparaître un vaste champ en face de lui. Il devait fuir sur le champ. De toute évidence, le vieux village de Grignan n'offrait pas le refuge espéré. Tandis qu'il disparaissait dans les ombres des collines, ses ennemis semblèrent se multiplier. Il avait opté pour des sentiers traversant la forêt. Où pouvait-il se cacher? Il longea un cours d'eau pour ne pas se perdre. Grignan, les abîmes de la Bère, dimanche 15 septembre, 12h30. Cela faisait maintenant 2 heures qu'Hippolyte marchait. Il avait remonté le cours d'eau vers Tolignan avant de s'apercevoir que les habitations se faisaient rares et que l'épaisse végétation devenait infranchissable. Ayant fait demi-tour, il s'approchait maintenant du lieu-dit « les abîmes de la Bère ». Exténué, il zigzaguait entre les bosquets, trébuchait sur les rochers de berge. Les ronces le griffaient, les genêts et les lauriers sauvages le giflaient. Son esprit tourbillonnait entre désespoir et détermination. À midi, il faisait chaud. Hippolyte eut faim, il était au bout de ses forces. Chacun de ses pas s'alourdissait. Au détour d'un étroit petit pont de bois, il aperçut le contour d'une bâtisse en pierre de haute taille, aux murs épais. Elle surplombait un grand étang. Une magnifique forêt s'étendait derrière elle, jouxtant une prairie. Le lieu dégageait une aura à la fois mystérieuse et apaisante. La rivière semblait avoir élu domicile à cet endroit. Son lit s'évanouissait juste derrière la mystérieuse demeure, comme si elle y pénétrait sans pouvoir en ressortir. Il s'agissait du moulin Raymond. En s'approchant, Hippolyte entendit le babillage de l'eau sur les roues du moulin. En contrebas du chemin d'accès, sur les premières berges de l'étang, il s'assit prudemment à l'ombre d'un vieil olivier à double tronc. Son écorce était généreuse, son feuillage magnifique. Sur une branche, très distinctement, était gravé le nom de Constantin. Les grandes racines extérieures de l'arbre hospitalier lui offraient presque le confort d'une bergère capitonnée. Panalis Raymond, homme de caractère et maître alchimiste, scrutait l'horizon depuis la porte de la bâtisse. Ses yeux perçants avaient repéré le jeune voyageur. Il l'observait de loin. Hippolyte, quant à lui, ne l'avait pas vu. Courtoisement, Panalis l'apostropha de loin. Sa voix était douce, assurée, avec un brin d'autorité. « Vous semblez épuisé, jeune voyageur. Cet olivier s'appelle Constantin. J'ai l'impression qu'il vous a adopté. Venez, entrez et partagez notre hospitalité. » Hippolyte regarda Panalis en silence. Le jeune voyageur éclata en sanglots, au point de s'étouffer. En passant de l'incertitude à l'espoir, son cœur tournoyait comme la roue du moulin. Il voulait parler, raconter son histoire, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Affaibli, il hocha finalement la tête. Panalis se mit à lui parler encore plus délicatement, troublé par la profonde tristesse qui submergeait son jeune interlocuteur. « La vie n'est pas que douceur. Elle n'est pas non plus que souffrance. Elle est ainsi, et nous devons l'accepter telle qu'elle. » Panalis s'approcha et releva Hippolyte. Il le soutint jusqu'à l'entrée de la Bastide. Les deux hommes entrèrent dans la pièce d'accueil de la maison. Une grande cheminée trônait là, devant eux. La marmite suspendue à la crémaillère diffusait une douce fumée. Panalis installa Hippolyte dans un large fauteuil en cuir à l'angle de la pièce.
il s'éclipsa un moment pour lui apporter de l'eau fraîche, un verre de vin, des pains croustillants ainsi qu'une assiette et des couverts. Des meuniers vêtus de leur tablier virevoltaient à l'étage de dessous. Panalis s'était assis en face d'Hippolyte qui dévorait son repas. « Je m'appelle Panalis Raymond. Je suis le propriétaire de ce domaine. Soyez le bienvenu au moulin. Vous allez pouvoir reprendre des forces, jeune voyageur, » lui dit-il d'un ton presque affectueux en lui tendant un verre de vin. Hippolyte oscillait entre gratitude, confusion et étonnement devant tant d'hospitalité et de générosité spontanée. Ce lieu et ce personnage pouvaient-ils être absolument sûrs? Panalis laissa à son invité le temps nécessaire pour qu'il se restaurât. Il l'observait. Sa femme, Adèle, apparut au pied de l'escalier, à proximité de la cheminée. Elle portait dans ses bras un chat gris, très affectueux. Une sensation d'apaisement traversa Hippolyte, comme une douce décharge. Il réalisa qu'il ne s'était pas encore présenté. Ses hôtes semblèrent pourtant déjà le connaître, après simplement quelques échanges dans cette drôle de pièce, aux allures de cabinet des curiosités. Adèle lui proposa d'aller se reposer dans une chambre à l'étage. « Reposez-vous, » dit-elle avec une conviction quelque peu surprenante. « Mais je ne sais pas si je peux, » balbutia-t-il, touché par sa gentillesse. Ils montèrent l'escalier en bois, subtilement travaillé, à droite de la cheminée. Elle lui ouvrit une chambre douillette, lui souhaita bon repos, en déposant les clés sur une petite commode de style. Il s'enfonça dans les draps épais du lit et s'endormit tout de suite. À son réveil, le lendemain, les premiers rayons du jour illuminèrent sa chambre, avec en musique de fond le doux ronronnement du chat, confortablement installé au bout du lit. Le chat fit les étirements du petit matin en même temps que lui. Hippolyte sortit sur le perron de la Bastide. De là, il pouvait observer tout le domaine, son bassin et sa forêt. Il aperçut au loin Panalis, affairé à donner quelques instructions à des paysans qui battaient le blé sous le ciel bleu et limpide de Provence. La vision était magnifique. Tous ses sens étaient en éveil. Il se sentait bien. Le cœur envahi de gratitude, il fit signe à Panalis et se hâta de le rejoindre. En le saluant, il remercia une fois de plus le propriétaire du moulin pour son hospitalité. Sans vraiment savoir pourquoi, il s'entendit lui dévoiler quelques bribes des rêves troublants qui marquèrent son long sommeil. Attendri et intéressé, Panalis écoutait attentivement le récit de ses étranges visions nocturnes. Après un petit moment de réflexion, Panalis, d'un ton empreint de compassion et de jubilation cachée, s'adressa à Hippolyte. Il semble que le voyage onirique de cette très longue nuit soit le présage d'un nouveau chemin, un parcours plus reconstructif, pour vous et les vôtres. Avez-vous déjà entendu parler de l'alchimie philosophique? Ces mots résonnèrent de manière étrange dans l'esprit d'Hippolyte. Il venait de franchir la porte d'un avenir captivant, quoique incertain. Il ressentait clairement que le moulin Raymond et ses propriétaires en étaient la clé.